Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Juliette.
Bonjour François.
Bonjour Ramzi.
À tous ceux qui écoutent cet épisode en podcast, on va vous faire une recommandation, c'est de regarder ce podcast sur notre chaîne YouTube parce qu'il se passe beaucoup de choses et je ne suis pas sûr que vous compreniez tout.
Oui, il y a beaucoup de choses visuelles.
Il y a de la cascade.
Il y a de la cascade. C'est un podcast d'action.
C'est un podcast d'action.
C'est la première fois qu'on le fait.
Allez le voir sur notre chaîne YouTube, La Fabrique.
Ouais. Mais bon, si vous pouvez écouter aussi. Hein. Après, vous remettez le podcast pour écouter. Voilà, c'est bien.
On démarre par un jeu pour savoir qui lance l'émission entre Juliette, François et moi.
Ouais.
Vas-y, François, t'as une idée ?
Eh ben oui, je viens de le dire. Donc.
Mais ça enregistrait pas.
Ah ouais ? Donc, non. C'est Patrick qui va faire des imitations. Et on doit deviner qui
est Patrick.
Qui est Patrick déjà. On n'a pas précisé.
Alors, en plus, on ne l'a pas attendu. Aujourd'hui, il a été à l'heure.
Bravo, belle référence.
Et oh, ben non, c'est la surprise. C'est le pré-générique surprise. C'est un Patrick.
C'est Patrick.
Vas-y, et comme il fait alors, des voix, on ne va pas savoir tout de suite.
On va tester suspense. Ce jeu.
Non, mais là, c'est un podcast à suspense.
Oh là là. C'est bon, j'y vais là.
Ouais. Relève ton micro juste.
Bien évidemment. Ah oui, c'est ça le micro. On parle aussi. C'est formidable ce truc. On est parti.
Ouais.
Première imitation. Salut, tout le monde va bien?
Émile Lompré.
Eh ben pas loin, pas loin.
Le blond qui ressemble à un surfeur, mais en fait il a un corps pas du tout de surfeur, qui fait de l'humour, qui a France Inter chez Nagui.
Hulk Hogan.
Non. Paul Mirabel.
Voilà.
Non plus. C'est mon tonton Didier.
Okay. Personne n'a gagné.
Alors on va refaire le jeu.
Voilà, très bien.
Personne connue.
Très ouais. Très timide.
Salut les petits culs.
Douli.
Bien joué. Bravo.
C'est moi qui ai dit en premier.
Ouais. François. Ouais. Vas-y, le dernier.
Donc maintenant entre vous deux.
Ah ouais. Écouteuse.
Chirac.
Comment il a. Comment il est arrivé.
Bon, moi en même temps, j'avais de la pomme dans la bouche.
Exactement.
Manger des pommes.
Voilà. Manger des pommes. Premier, oui. Je vous aurais. Ah oui, manger des pommes.
Manger des pommes. Oh,
putain, ça va être un podcast. T'as perdu, c'est toi qui lance l'émission.
C'est un podcast high level, là. Toutes les refs.
Ah, ouais. J'avale.
Ok, d'accord.
Tu l'isoleras, celle-là.
Bah, moi, pour le moment, j'aime bien ce début d'émission.
La Fabrique, le podcast qui traite de la création. Saison 2, épisode je ne sais pas combien, invité Patrick Chanfray. Ce podcast sera animé... Combien, Ramzi, avec tes doigts ? 9. Épisode 9.
De la saison 2.
Oui.
Je l'ai dit, bordel.
Ok, pardon.
Me spoilez pas, moi, j'ai pas vu. Je sais pas s'ils ressortent ensemble dans la saison 1. Enfin, je suis pas...
Là, le générique est toujours en train de courir.
Oui, oui.
C'est formidable. Animé par Ramzi Hassadi.
Salut, Ramzi.
Bonjour.
Bonjour, Ramzi.
Par François Audouin et par Juliette Arnaud. Et donc, notre invité s'appelle de prénom Patrick, de nom famille Chanfray.
Salut Patrick.
Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick.
Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'accueillir et de me tolérer.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la fabrique. Je fais comme avec François, hein, je le refais quand même. Même si tu l'as déjà fait.
Mais c'est effrayant ce trait de caractère.
C'est clair. Non mais laisse tomber.
En fait, le jeu sert à rien.
Ça n'est pas avec toi, c'est lui.
Bienvenue dans la fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin. Bonjour François.
Salut Ramzy.
François, on va rappeler un petit peu pour ceux qui ne le connaissent pas, il est réalisateur de l'émission Le Grand Dimanche Soir sur France Inter.
Ouais.
Quoi d'autre?
Trapéziste, tu me disais, c'est complètement dingue ça ce truc.
Bah, comédien, auteur, réalisateur,
scénariste,
auteur,
et maintenant chanteur, car il fait les premières parties de Johnny Montreuil.
Alors exactement, la première partie de la première partie de Johnny Montreuil.
Ah, ça, voilà. C'est beau. Ouais. Mais oui, et puis moi, je suis désolé, je t'ai tutoyé directement, j'ai envie de vous voyez maintenant.
Non, mais voilà,
très bien. Avec son nom de scène qui est
Francky Auteuil.
Francky Auteuil, évidemment. Voilà.
Parce que Johnny Montreuil vient de Montreuil, Francky Auteuil vient d'Auteuil. C'est rocker de droite.
Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Juliette.
Juliette, on va rappeler également qui tu es.
Et là, elle est tombée par terre.
Autrice, chroniqueuse radio, comédienne, réalisatrice, et voilà.
Super copine.
Oh, François.
Ouais, c'est mignon. Et notre invité, Patrick Chanfray, bonjour.
Bonjour. Salut, bonjour à tous.
Alors, vraiment, Patrick Chanfray, on va expliquer un peu
oui, pourquoi
qui tu es.
Pourquoi
qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas.
Voilà.
Mais qui ne le connaît pas?
Il y a plus grand monde, mais
oui. Parce que ils sont 14. Que... je faisais le voilà, je répertoriais un petit peu les gens, et oui, ils sont une dizaine, grosse dizaine.
Ouais.
Humoriste, oui. T'as fait combien de spectacles?
J'en ai fait 4.
4.
Ouais. Enfin, depuis le tout début de la création de la Terre.
De la Terre.
Exactement.
Comédien, tu tournes régulièrement dans des fictions. Oui, t'as fait récemment.
Plein de bêtises. Le
remplaçant sur TF1.
Ouais, notamment. Complètement avec Joey Star.
Avec Joey Star.
Ouais. Génial.
T'as fait aussi la fiction avec Jarry sur.
Ouais, à côté
2.
De ses pompes. Voilà. Un truc sur dans le milieu des croque-morts. Où c'était vraiment mais super. Et la réalisatrice était géniale parce qu'elle ne me connaissait pas plus que ça, comme les autres 14. Et elle m'a laissé improviser sur une scène, et scène qu'elle a gardée. Elle a gardé l'impro. Donc vraiment, j'étais...
Ah, cool, ça, on pourra en parler.
Et gentil. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça gentil de sa part. Enfin, j'ai l'impression de dire, ah ben merci.
T'as fait également des pièces de théâtre, on en parlera.
Oui.
Et en rapport avec nous, t'as mis en scène Constance.
Bien sûr.
Constance. Alors ça, je savais pas.
Je savais
pas.
Partout sentimental.
Ah ouais, ma Constance chérie. Ouais, complètement. Oui, oui.
D'accord.
Super. Donc,
et j'ai mis en scène un opéra aussi. Ça
oui,
complètement
punaise. Bleu. Et ça, c'est le rapport avec moi. Ouais. Parce que tu as mis en scène un opéra de Ravel, qui s'appelle L'Enfant et les Sortilèges.
Tout à fait.
Dont le texte, c'est de Colette.
Exactement.
Ma vie, mon sang.
Ah, génial. Ah bah, tu vois. C'était vraiment une...
Et ça m'a très très surpris parce que j'ai vu
j'ai
vu passer des trucs de toi où il y a les grosses têtes et tout à coup je vois débarquer
il y a un grand écart.
Moi venant d'Interville, j'ai aucun souci avec ça, mais je suis fascinée par les gens
qui arrivent à faire courbaturé d'Interville. Tu étais sur le plan incliné quand je t'ai vu arriver. Je me suis dit oh là là, le pompier de Dax qui était comme
ça. Tu rigoles, mais elle faisait vraiment, c'était l'arbitre de ça. Elle faisait vraiment les genoux, monte en bord, les genoux.
Je comprenais rien à ce que je disais en plus parce que je connaissais pas les jeux. Bref, et donc moi je trouve ça fascinant les gens qui arrivent à faire, avoir des images d'eux.
Il met en scène plein de spectacles, c'est le Steve Suissa d'aujourd'hui.
C'est pas mettre en scène n'importe quoi, c'est Ravel et Colette, c'est-à-dire parmi des esprits les plus fins et raffinés qu'il y ait eu le XXe siècle.
Okay.
Pardon, mais c'est pas n'importe quoi.
C'est donc l'intro la plus longue de l'émission.
Ouais, mais elle était intéressante.
C'était intéressant.
Merci.
Juliette,
on va vous souhaiter une bonne fin.
Journée à toi, c'est terminé. Peut-être un deuxième épisode, du coup.
Juliette, je te laisse lancer la première question de l'émission.
Alors avant, je voudrais poser une question subsidiaire parce que j'ai remarqué qu'on la posait pas aux gens qu'on recevait et pour moi, elle est d'importance. Tu es né en quelle année, donc tu as quel âge?
En 1981, j'ai 42 ans.
Voilà. Moi, je pense que ça compte.
Le 7 juin.
Exactement, le 7 juin.
Et là, on va donner tous nos dates de naissance ou pas?
Non, mais...
Oui, mais on va montrer nos papiers, parce que j'ai l'impression que là...
Ramzy, tes papiers.
Par rapport à la carrière des uns et des autres, l'âge que t'as, ça raconte un truc. Quand il dit qu'il a 4 spectacles, c'est pas à 25 ans que t'as 4 spectacles. Bref, donc j'attaque la question rituelle qui est... Mon cher Patrick, qu'est-ce qui ou quoi Qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation d'embrasser une carrière dite artistique ?
Eh ben, en fait, ça a été un peu particulier. Parce que moi, j'ai le truc un peu inverse de plein de monde. J'ai eu mes parents, moi, qui m'ont toujours poussé à faire ça. C'est-à-dire qu'à 7 ans, j'ai dit « je veux être comédien ». Et mes parents étaient à fond. En disant,
ils viennent d'un milieu artistique ?
Pas le moins du monde. Non, du tout. Mon papa, il était mécanicien et... Ah oui. Et ouais, et ma maman à la préfecture, vraiment. Mais même pas, elle travaillait même pas, elle était là-bas. Quoi. Dans les locaux, quoi, sans doute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, toute ma vie, quand j'étais petit, j'adorais déjà ce truc. Ma famille n'est pas artistique, mais un petit peu en tout cas dans l'attitude, dans la convivialité. Un truc où il y avait tout le temps du monde chez moi. Il y avait tout le temps vraiment un peu de fête. Mes parents mettaient un peu en scène les trucs. Je me souviens d'un réveillon où ma mère, elle mettait à chaque entrée d'invité, où elle mettait le générique de Champs-Élysées.
c'est génial.
Ah ouais, c'était un peu fou. Et j'ai gardé ce truc-là. Et il y a eu le truc où même de mise en scène, en tout cas, de mettre en scène des choses. Le samedi soir, très souvent, comme on n'avait pas les moyens d'aller au restaurant, je m'habillais bien. On avait le droit je m'enfermais dans le salon et je préparais la table pour mon papa, ma maman. Et puis on avait le droit de manger devant la télé, en plus devant Patrick Sébastien. Sébastien, c'est fou. Enfin, c'était dingue et je m'habillais bien et c'est moi qui les servais. On faisait un petit
jouillet au restaurant.
Exactement.
Vous jouiez au restaurant.
Exactement.
Bah, t'as un bol de...
Ah ouais.
Ouais, ouais.
Pardon
ouais.
De te dire ça, mais t'as un bol de fou. C'est pas si commun. Ça y est, il y a Ramzy qui me fait des gros yeux.
Non,
quoi.
Non, vas-y, continue.
Non, mais
c'est ton micro.
Non, mais c'est vrai que c'était vraiment cool et j'ai vite vu en fait que de faire rire, j'étais un petit peu l'amuseur comme ça, ça me permettait, quand il y avait les copains de mes parents, de me coucher plus tard parce que je faisais marrer les copains de mes parents. Ça me permettait, comme très souvent tout le monde le dit, mais d'avoir pas d'assurance avec les filles, mais en tout cas de les faire rire. Et franchement, même encore maintenant, enfin c'est complètement débile, je regarde dans le public s'il y a des filles, je dis c'est bon, je vais pouvoir faire rire des filles. Alors que je suis marié, enfin il y a rien du tout, tu vois, de ce truc-là. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Et puis j'ai grandi dans un quartier, c'est le quartier de Antoine Griezmann, au Gautria, à Mâcon. Et pareil, il y avait les grands du quartier. Il y avait donc, pour te démarquer, soit tu savais super bien jouer au foot, soit tu étais très fort, soit tu étais un... Et puis, moi, rien de tout ça. Donc, du coup, je faisais...
Pour survivre.
Exactement. Donc, du coup, je faisais des blagues. Oui, pardon, vas-y.
Non, je voulais faire une incise, ouais. Parce que tu as parlé de faire rire les filles.
Oui.
Et est-ce que ça a quelque chose de particulier à tes oreilles et à ton entendement, le rire des filles, justement ?
Complètement, complètement. C'est marrant que tu dises ça. Moi, je suis très attaché au son et tout ça. Et je trouve qu'il y a un truc... Enfin, sans doute que ça doit venir, je vais m'allonger pour parler de ça, mais ça doit venir de mon enfance, de cette musique. J'étais très longtemps le seul garçon. Mon père a cinq frères, donc du coup j'ai eu que des cousines, et très longtemps j'avais ce rire des filles de tas de choses, de mes cousines. Et je pense que ça m'a laissé un truc dans la tête.
Un truc que tu as recherché parce
ouais.
qu'il y a une mélodie particulière.
Exactement.
Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute des filles rire dans des salles de spectacle, où il y a une chose plus spontanée et moins une projection forcément d'elles. Enfin,
complètement. Exactement, c'est ça. Il y a de la retenue, oui et non. Enfin, heureusement qu'on n'en a pas dans le rire, parce que sinon, vraiment, il n'y aurait pas beaucoup de bruit dans les salles de spectacle. Oh non, je ne vais pas rire pour ça. Non, mais où c'est que je vais? Mais d'avoir ce truc, effectivement,
mais dans une salle de spectacle, des fois, le public est un peu inhibé, n'ose pas rire. Si c'est une salle un peu silencieuse dès le début, certains n'osent pas forcément rire.
Après, c'est peut-être parce que c'est pas drôle.
Oui, ça doit jouer.
Bon,
ça peut jouer.
Non, mais...
Non, après, moi, je suis d'accord avec François, il y a des salles qui s'inhibent, ça démarre mal.
Oui.
Il n'y a pas quelqu'un qui a un rire prépondérant, spontané.
De certains publics qui sont froids, non ?
Tu as du mal à les chauffer. Oui, mais ouais. ça relève souvent de
ça.
Les
Lyonnais, on dit ça, non ?
Oui, mais ça, c'est des... Pour moi, ce sont des
trucs...
généralités qui ne valent à rien.
Ouais, c'est comme dire, oh là là, non, là, ils étaient froids, ils étaient...
Mais un public peut, à un moment, des fois, il y a même un seul rire qui peut être un peu ridicule dans le public, qui déclenche le rire.
Totalement.
Et en fait, ça y est, l'inhibition est levée et d'un coup, ta salle devient...
Parce que rire en public, ça reste une chose que tu fais en public. Et en fait, c'est pas si naturel que ça pour plein de gens. Et donc, une fois qu'il y a une personne qui a passé cette barrière
qui a osé.
Et qui, ouais, de l'inhibition et qui se met à rire, ça donne le signal à tous les autres petits cerveaux à côté de « c'est bon,
effectivement.
On peut tous rire, ouais, à voix haute ».
C'est pour ça que c'est important d'avoir Juliette dans la salle.
Et c'est pour ça que moi, mes copines, elles m'appellent en disant « je t'en supplie, viens ce soir ».
D'ailleurs, elle est payée, c'est fait 16 heures d'intermittence grâce à ça. Hein.
C'est ça. Mais, si j'avais été récompensée pour toutes les fois où j'ai rié aux blagues de tous les connards.
Mais tu vois, moi, même mes parents, quand ils sont venus les premières fois au spectacle, ils n'osaient pas rire. Il y avait un truc de... Il n'y a rien de plus drôle, je pense, que le début du rire. Tu sais, ce truc de... Ça, vraiment, mais ça me fait mourir de rire. Et c'est vraiment... Moi,
mais ils n'osaient pas rire, pourquoi, tes parents? Ils avaient peur pour toi, peut-être,
ouais,
aussi.
Oui, sans doute. Tu vois, il, ouais, y avait un petit truc comme ça. Et puis, alors qu'ils m'ont toujours poussé, moi, j'ai fait vraiment plein de métiers avant. J'ai été mécanicien agricole. J'ai été vendeur de pièces détachées automobiles à l'atelier à Citroën, vendeur de bagnoles. J'ai vendu des surgelés et en fait...
Parce qu'après les études, tu t'es pas dirigé tout de suite vers le...
Non, non, non.
Le tout mannequinat.
Exactement.
Tu cherches tes mots, vers je t'aide.
Exactement. T'as raison. Vers le mannequinat.
Mais tu savais peut-être pas d'ailleurs, parce que même si tu mettais en scène, c'était des spectacles au sein de la cellule familiale, ouais, tu savais pas forcément qu'est-ce que ça allait être toi. Oui. Alors que c'était du jeu, mais est-ce que la question de savoir si quand tu deviens humoriste ou quand tu veux écrire, elle vient plus tard certainement.
Ça m'a toujours fasciné, moi j'ai toujours écrit un peu des histoires et tout, puis à la maison on regardait vraiment plein de spectacles. À chaque fois qu'il y avait un spectacle, on regardait un spectacle. On était vraiment. Je suis jamais allé au théâtre. Je suis jamais allé au théâtre avant d'y jouer. Mmh. Enfin, c'est ça.
C'est vrai.
Ouais, ouais, je te promets. La première fois que je suis
allé
vraiment.
Même pas à la télé.
Si,
non,
si.
Mais aller dans la salle de théâtre.
Entrer dans un réel théâtre.
Avant, même à l'école, non? Sortie scolaire.
Ouais, à l'école, tu vois les trucs comme ça, mais vraiment de mon plein gré en disant bah tiens, je vais aller voir un spectacle. Ben ouais, il y avait un truc très et c'est pour ça que ça m'a donné cette dimension de. Ouais, non, mais c'est pas réel, en fait. Et j'ai repoussé. Et un jour, j'ai eu une promotion dans le métier que j'ai exercé. Donc, vous voyez que c'était pas orthophoniste, mon métier.
C'était quoi?
Je vendais des surgelés chez Thierrier. Je ne sais pas si vous connaissez, ouais, cette marque.
Non, oui, on connaît que Picard.
Non, je connais.
Ouais, tu vois, et c'était un truc que j'adorais parce que... Enfin, que j'adorais. Non. Mais en fait, tu avais ta petite voiture et tu allais chez les petits vieux et tu prenais les bons de commande, tu faisais les machins, à tel point que moi, je suis devenu copain avec plein de vieux. Enfin, j'allais déjeuner
c'est
avec eux.
C'est ton premier public, ils venaient te voir après.
Exactement. Et puis là, il faut que je renouvelle mon public.
C'est une représentation un petit peu à chaque fois, en fait.
Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait le truc où je jouais à côté, déjà, des spectacles, au Boui-Boui, à Lyon. Ouais,
le fameux Boui-Boui.
Tout à fait.
On parle que de cette salle de spectacle.
Au complexe du rire, l'espace Gerson et tout ça. Et j'étais à l'époque avec une fille qui, elle, vraiment ne voulait pas que je fasse ça, un peu castratrice là-dessus. Je l'aimais beaucoup. Et voilà. On a même à un moment, j'ai dû mentir pour aller jouer. Enfin, j'aurais eu une double vie avec une meuf, ça aurait été tellement plus simple.
Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas?
Bah, parce qu'elle est issue d'une famille où on crée des choses, on crée des maisons, on les vend, on crée des bâtiments, on les vend. Enfin, vraiment, ce truc-là très concret. Et je pense que ça lui a fait peur. Je n'en veux pas une seule seconde.
Non, bien sûr. Mais moi non plus. Ouais. Ça m'intéresse de comprendre.
Mais complètement.
Est-ce que c'est le côté être public? Enfin, qui a envie, honnêtement, de son plein gré, d'être avec quelqu'un qui a un métier public? Réponse, personne. En vrai. Tout le monde pressent que ça va être la merde, que c'est pas, ça va pas être...
Ou alors on n'a pas conscience. C'est vraiment la célébrité.
On peut ne pas en avoir conscience.
Là, c'était vraiment un truc, parce qu'elle avait vraiment... Le truc que c'était pas concret, quoi. Il y avait un
d'insécurité aussi, intermittent,
compréhensible. Donc c'est drôle, finalement, elle a eu un petit peu le rôle de mes parents, un peu, tu vois, à retardement, quoi. Et j'ai eu cette promotion, et j'ai appelé mon papa, je lui ai dit, et ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, et je lui ai dit, j'ai cette promotion, tout ça, et il m'a posé la meilleure des questions de ma vie. Il m'a dit, d'accord. Du coup, tu seras jamais comédien. Voilà. Et j'ai pleuré pendant une journée, je crois. Et le vendredi, c'était le jeudi, Vraiment ? Bah dis donc, je ne pensais pas que j'allais être ému comme ça, dis donc.
Bah nous, ouais, vas-y, continue, mais nous aussi.
C'était le jeudi, et le vendredi, je suis allé au travail. Et on avait pour habitude, le vendredi, avec tous les commerciaux, de manger à Buffalo Grill. C'était un peu notre target de la semaine, tu vois. Ouais, ouais, il n'était pas gagné, le show business, hein, je vous cache pas, tu vois. Et en fait, voilà, on s'est tous dit, bon, ben voilà, on se rejoint au Buffalo. J'ai dit, ben ouais, on se rejoint. J'ai éteint mon ordinateur, j'ai pris ma voiture, je suis passé devant le Buffalo Grill. J'ai été chez moi, j'ai garé ma voiture, je ne sais même plus où. Je suis monté dans mon appart, j'ai pris un petit sac, j'ai mis des affaires que j'avais peut-être même jamais mis. C'est les trucs que dans un tiroir où tu te dis, bah tiens, ça, je vais laisser là. Et puis, hop. J'habite en centre-ville, donc du coup, je suis parti à pied à la gare. Et puis, j'ai dit, bah, j'étais vers la dame et j'ai dit, bah, je voudrais un billet pour Paris. Elle me dit, d'accord, il y aura un retour. Je dis, bah non, il n'y aura pas de retour.
Putain, mais en fait, t'as un court-métrage de ouf. Entre le coup de fil à ton père et ton dialogue avec la nana de la gare, mais tu fais 15 minutes, mais de malade.
Ah bah écoute, ouais. Et tu vois, c'est un truc dont j'ai rarement parlé, parce que c'était tellement profond et puis tellement intime que je me suis toujours caché un peu devant, après avec des histoires, des trucs très absurdes et tout. Et c'est un truc où... Mais je le remercie tous les jours. Enfin, c'est vraiment... On est parti avec mon papa, on a fait un truc pour l'enterrement. Je me suis marié et je me suis dit, bah ouais, j'aimerais bien faire un enterrement de vie de garçon avec tous mes meilleurs copains, y compris l'un de mes meilleurs amis, c'est mon père. Et du coup, j'ai dit, ben, je vais partir. Il n'était jamais parti en Corse. On est parti en Corse tous les deux une semaine. Et on s'est dit des trucs. On a bu des canons. On était vraiment, mais des trucs, mais des trucs de potes, quoi. Et lui avoir dit que c'était grâce à lui, ça m'a... J'étais content.
Wow. Et ah ouais, t'avais quel âge ?
12 ans.
Et moi j'étais là pour me dire, je bossais déjà avec une voiture.
Moi, c'était en 2009, donc j'avais 28 ans. Ouais, 28 ans. Donc ouais.
Ah ouais.
Et je suis arrivé à la gare à 18h, gare de Lyon, en me disant bon ben.
Et concrètement, t'as fait quoi quand t'es arrivé à Paris?
J'ai envoyé un message à mes parents pour les rassurer en disant, à mon avis, vous allez avoir un paquet de coups de fil. Donc rassurez-vous, machin, pas de souci. Parce qu'en plus, j'ai fait un abandon de vie total, quoi. C'est-à-dire que j'ai abandonné mon poste, j'ai abandonné
l'appartement, la voiture,
la meuf,
putain, la voiture,
la carte fidélité du Buffalo Grill.
Exactement, putain. J'étais à encore deux coups de tempo et j'avais l'entrecôte XL. Non, puis j'abandonnais, enfin, je quittais une fille que j'aimais en plus. Enfin, donc il y avait vraiment un truc. Je pense que on en a souvent parlé d'ailleurs avec Constance et puis avec Aymeric Lompré de ce truc parce qu'ils m'ont souvent demandé, ils m'ont dit, mais alors à quoi tu pensais et je te jure, je suis incapable de savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a fait off, touf, en montant dans le train. Et vraiment, mais j'étais... Mais...
Il y a une sorte de truc automatique, un pilotage automatique. Oui.
Alors c'est terrible parce qu'en psychiatrie, je pense qu'on pourrait appeler ça un passage à l'acte.
Oui, complètement.
Et un passage à l'acte, c'est pas forcément une tentative de suicide ou c'est pas forcément ça.
Et je rassure toutes les victimes d'ailleurs.
Non, mais c'est les moments où tu dois shut down une partie de ton cerveau pour faire le mouvement, pour te donner les autorisations.
Ah bah tu vois.
Il faut que une partie de ton cerveau rationnel s'éteigne pour que tu puisses faire ce que tu devais faire, ce qui devait...
Effectivement, tu vois, tu mets des mots sur... Merci docteur, merci d'être venu aussi
vite. Et c'est pour ça non plus, je ne vais pas être payé, je me sens bien. Bordel.
Et mais du coup, ouais, comme dit Ramzy, bon, donc tu arrives à Paris, et là donc tu rassures, et tout ça, mais du coup après concrètement, parce que t'as juste un sac quoi, t'as de l'argent.
Est-ce qu'il y a une brosse à dents et un slip propre?
Eh bien je te jure que non, non, rien du tout, et c'est ça
tu
le
sais
truc,
que ça,
j'ai vécu.
Ça, si t'arrivais à écrire sur une liste, à faire un travail mémoriel pour essayer de te souvenir de ce que tu as pris, et ce que tu n'as pas pris. Ça, ça vaut, mais très, très cher.
Et bah, ouais, et
ça,
bah,
ça
franchement...
c'est le début d'un livre de Georges Perec. Non, bah oui. Écrit...
C'est ça.
T'as pas pris de slip propre, t'as pas pris de... Est-ce que t'as pris de la thune? Est-ce que t'as pris un objet
J'avais ma carte bleue, j'ai passé le prends pas comme ça, Ramzi, reste avec
moi.
On t'aime pas qu'on parle de ces histoires-là. Oh, ça va chercher quelque chose en toi, trop enfoui. Non, mais ouais, j'ai passé...
Ça va, Ramzi?
Ramzi,
je l'ai jamais vu tomber.
Il a fait une chute.
Il est tombé.
Depuis toutes ces années où j'aime ce garçon, je ne l'ai jamais vu tomber. Ah, oh là il ne se relèvera pas. Ça va, Ramzi?
Ça va, mon Ramzi? Je vais vous coller ce truc.
C'est la chute au ralenti.
Vous connaissez ce truc de Francis Lalanne où il est tombé dans un. Il fait une émission radio. Et d'un seul coup, il va pour chanter et il est tombé comme Ramzi, là, vraiment. Alors, Ramzi, lui, c'est dû à ses problèmes d'alcool.
Non, mais en plus, moi, je l'ai vu, j'ai cru qu'il faisait un sketch. Mais genre, je m'assois, je tombe, regarde, je vais tomber.
Tu es assis à côté de ta chaise ?
Oui, je me suis assis sur la coudoir.
Mais ça se trouve, t'étais paraplégique jusqu'à maintenant et on s'en est jamais aperçu.
On peut enchaîner.
Alors, on ressent.
Oui, donc. On ressent. J'ai passé.
L'argent, tu dis, c'était sur ta carte bleue.
Ouais, exactement. Et j'ai passé du coup 11 jours dans un hôtel miteux.
Ouais.
Tellement miteux que c'était le moins cher. Hein.
Où ça
C'était vers la gare du Nord. Je sais.
Mais... Ouais, bah, gare du Nord.
Ouais, voilà. Ouais, voilà, ouais, c'est compris. Ouais.
Bah déjà, un hôtel Gare du Nord, on a tous compris qu'on n'était pas au Plaza.
Enfin, un hôtel. Bon,
non, mais ne me dis pas les blattes, tout ça, c'est bon.
Exactement.
Il n'y avait pas de matelas.
Mais tellement que c'était que je flippais, j'avais un sweat à capuche, je dormais avec mon sweat et je mettais ma capuche pour pas que ça touche.
Ah ouais.
Ah ouais, c'était vraiment flippant. J'ai passé 11 jours comme ça et comme j'avais rien à faire, bah, en fait, je marchais. Mais de marcher dans Paris, de voir tout ce que j'avais eu envie toute ma vie, d'être à Paris, tout ce truc complètement, le fantasme d'être à Paris, de prendre le métro, c'était complètement dingue pour moi. Et je marchais, et je faisais, j'allais voir des cafés, des trucs, dire parce que j'avais déjà mon spectacle que je jouais à Lyon, je me disais, si vous voulez, je vous fais 2-3 sketchs et tout. Et j'ai même été au gymnase parce que j'avais vu ça à la télé, le gymnase quoi. C'était le Koub, je sais plus comment il s'appelle.
Oui, oui.
Ouais. Et il me dit, c'était l'ancien directeur du gymnase.
Merci.
Et un gars.
Il y est plus ?
Ah peut-être. Je sais.
Moi j'ai l'impression qu'il va tout le temps être là, c'est-à-dire que même après qu'on sera mort, il sera encore là. Enfin, bon, bref, on se renseignera.
Exactement. Puis on l'embrasse, enfin, on espère. et je me souviens qu'il avait été très gentil, il m'avait fait visiter le théâtre et il m'avait dit qu'en fait, il y avait un minimum garantie de 250 euros. Et moi, dans ma tête, venant de Lyon et de jouer en province, j'ai dit, attends, putain, 250 euros, c'est-à-dire que mais si je joue 2 fois par semaine... c'est bon alors. Et en fait, moi, le minimum garanti, je croyais que c'était le théâtre qui allait m'assurer c'est un minimum garanti pour toi. Et c'est lui qui m'a expliqué c'est une location.
Expliquer peut-être
En fait, c'est des locations de salles, donc un minimum garanti. C'est tu payes 250 euros pour louer un créneau horaire. Le 19h au gymnase.
En espérant que tu es assez payant.
Exactement.
Pour avoir le minimum garanti et pas, pas de perte d'argent.
Voilà, tout à fait.
Que tu ne sois pas en train de payer pour jouer. C'est ce qui arrive. Ouais. Hein.
Au début, tu fais ça beaucoup moins, de toute façon.
Et je faisais j'avais vu qu'il y avait des plateaux, des trucs. Il y avait le Chinchman, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Il y avait un truc comme ça. Et c'était très sympa et j'ai commencé à rencontrer des gens là-bas.
Le changement, c'est que tu vas dans la salle et elle te sélectionne.
Ouais. Alors c'est au Trévise. C'était le field où tu allais dans la salle et tu faisais coucou. Bah du coup j'ai fait. En fait je faisais tous les trucs. De toute façon j'avais rien d'autre à faire donc c'était vite lui. et j'ai pu faire les plateaux. On m'a dit il y a un théâtre. Vous connaissez cette histoire de minimum garantie là. Tout le monde me dit oui. Ouais, moi aussi je connais. C'est bon, je connais.
Et alors, t'as dit 11 jours.
Ouais, 11 jours.
Qu'est-ce qui s'est passé au 12e? Dieu le a créé. Dieu...
Le deuxième jour.
T'as non. ouvert tes bras, il y a eu la lumière.
T'as chanfré la lumière.
Exactement. Non, j'ai eu la chance d'aller à la petite loge, le théâtre La Petite Loge. Une fille qui s'appelle Perrine Blondel, qui, elle, il n'y avait pas de minimum garantie. C'est le plus petit théâtre de Paris où il y a 20 places. Et qui m'a dit, fais passer une audition. Et puis elle me dit, c'est drôle et tout. Et elle me programme une fois par semaine, donc je suis content. Et en fait, je joue ma première, et dans la salle, il y a un couple avec qui on sympathise à la fin, parce que de toute façon, il y a ces 20 places, et ils étaient que 6, donc ça allait très vite. Et ils me disent, j'explique que je suis à l'hôtel. Il dit, nous, on est à Boulogne, mais je crois que...
Et on est un couple libertin.
Exactement. Je dis, franchement, quand ça veut, ça veut. ils me disent, je crois que dans notre bâtiment, il y a une chambre de bonne à louer et tout. Et j'y vais. Et j'ai pu louer cette chambre de bonne grâce à eux. Donc c'était assez cool, j'étais à Boulogne là-bas et j'étais dans un 12.
Ah bah oui, ça a changé entre Gare du Nord Boulogne. Tu changes de pays.
Oh là là. Ah bah j'ai essuyé mes pieds avant de rentrer dans l'arrondissement. Mais ouais, c'était vraiment et je me souviens du jour, il y avait pas de toilettes, les toilettes sur le palier et tout. Je me souviens du jour où je suis arrivé dans la porte, j'ai ouvert la porte, j'ai fermé la porte derrière moi. J'avais une chambre de 12 mètres carrés, j'avais l'impression d'avoir un château. Je me suis dit, ça y est, j'habite à Paris. Tu vois, ouais. C'était plus le truc de... Non,
alors que tu habitais à Boulogne.
Oui.
Oui, mais tu vois... C'est là que c'est un peu ironique.
Ouais, mais provincial.
Exactement, pour nous, Paris-Boulogne, c'est
tu vois,
pareil.
Ouais, nous, les...
Mais dis pas, nous, provincial, je suis né où, moi.
Oui, toi, ça fait trop longtemps que tu vis à Paris.
Ça, c'est une légende. On sait très bien que t'es une petite nana du 16e, là.
Tu veux que je te parle avec ton Stéphanois?
Oh là. Elle l'a bien bossé.
J'ai habité à Saint-Étienne aussi. Et j'étais magasinier vendeur à Noroto, à Villard. Tu connais Villard?
À Villard de l'Air?
À Villard de l'Air. Oh là là.
Ah ouais. Il était commercial.
C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui sait faire l'accent stéphanois.
Ah ouais, parce que là, je les ai bien.
Tu n'es pas stéphanois et qui sait le faire.
Mais ouais, oh là là, j'adorais. Mais Stéphane, ouais.
C'est le meilleur accent au monde. Hein.
Avec les cocas. c'est bien caisse. Oh là, le gars, c'est bien caisse. Ah non, mais c'est. Hop, quand il te rend de la monnaie, tac, 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 et hop. Et c'est un quinte.
Et c'est un quinte qui fait en
serre.
Et je vous en remets moins ou je vous en remets mieux? Oh, t'es mère mieux.
Ça va, Chevalier de Las Palais, ou ça vous dérange pas trop?
Il va être bien ce spectacle, Juliette.
Nous, on a eu que les gens de ce coin avec notre accent abominable, on a eu qu'un mec.
Bon, représentant, pas n'importe qui.
Bah Bruno.
Rocheteau.
Aimé Jacquet.
L'Angevin,
je parle d'humoriste.
Platini. Okay. Non, lui c'était Nancy au départ.
J'ai perdu son nom. Le mec l'humoriste le plus célèbre des années 50, qui a l'accent chez nous.
Fernand Reynaud.
Mais oui, voilà.
Fernand. D'ailleurs, il faisait l'accent.
Mais il le faisait pas. Il l'avait.
Si dans ses sketchs, non, mais il a plié.
Les voisins. Bourreau d'enfer.
Toto, mange ta soupe. Toto, non. Les voisins. Bourreau d'enfer.
Oh, Fernand Reynaud, Ramzy, quand même.
Je connais le nom, mais je connais
le plombier.
Le plombier, le fût du canon.
Tonton, pourquoi tu tousses? Tonton, pourquoi tu tousses?
C'est pas un sketch, là, c'est vraiment une question. Pourquoi tu tousses?
Les étrangers, ils mangent le pain des Français.
Non, mais alors, par contre,
c'est l'accent nersaquais, charentais, moi, nersaquais.
Bon, donc tu commences un peu à te débrouiller.
On est au 12e jour, on est à Boulogne.
On est au 12e siècle.
Les toilettes sont sur le palier.
Il a 5 ans, ça va être long, l'émission. T'as que 5 ans, putain.
Mais c'est bientôt.
Je m'ennuie, mais vraiment. Donc tu commences un peu à te débrouiller.
Ouais,
tout ça.
Complètement. Au bout d'un moment, j'ai plus d'argent puisque j'ai abandonné mon poste. Donc abandon de poste, plus de sous.
T'as pas le chômage, non? Je crois quand t'as abandonné le poste en plus.
Complètement. Donc ça va très vite. Je dépense toutes mes économies très vite. Enfin, j'achète une viennoiserie quoi. j'ai un pote qui me dit je connais quelqu'un sur Paris, elle bosse au Page Jaune, à Sèvres. Je me dis, putain, mais plus ça... je viens à Paris, plus ça va, plus je m'en éloigne.
Et puis que dans les chez les riches, hein, après.
Oui, en plus, ah bah, hein. Complètement. Ah bah, tu m'aurais vu arriver à Sèvres, j'étais avec mon costume d'époque, et mon monocle. Non, et je rencontre la fille, ça se passe bien et tout. On rigole, et puis elle me dit, ouais, moi je bosse là, et il recherche quelqu'un pour être commercial graphiste. Je dis, oh putain, je sais tout faire. C'est bon. Et je vais à l'entretien, et la RH, elle me reçoit, et on parle de 4 minutes du poste, et je lui dis pourquoi je suis à Paris. Et on parle 1h15 de théâtre. Et vraiment, de théâtre et tout machin, de plein de trucs. On fait un peu les cons comme on vient de le faire. Et je sors du truc, j'appelle mon pote et il me dit « Alors, c'est bien passé ?» Je dis « Ouais, je pense. » En tout cas, j'ai pris un thé avec une copine, quoi. Vraiment, là. Et ça, c'était, c'était encore un jeudi, dis donc. Elle m'appelle le vendredi. Elle me dit c'est bon, on va faire un essai, pas de souci. Vous avez dit que vous étiez dispo, on peut attaquer lundi. Je dis ouais, à fond, bien sûr. Et mon pote qui était graphiste, je lui dis, par contre, moi, le maximum que je sais faire en informatique, c'est un copier-coller. Donc, et tout le week-end, je te jure, je suis à la FNAC en train de lire des trucs, l'informatique pour les nuls et tout. Je suis en train de regarder pour me dire, oh, putain, il faut que je me fasse des raccourcis. Je lui demande des raccourcis. Oh, j'arrive le lundi matin où je suis... parce que bon, j'ai fait le malin, mais là, je faisais pas le malin. Ouais. Et elle me met... je rencontre la Claire, que j'embrasse, vraiment, si elle m'entend.
Qui est devenue sa femme.
Oui, exactement, qui est là, qui est complètement géniale. Et c'était la chef de ce service-là. Et elle me met en double poste avec un gars, super sympa aussi, Fabrice, que j'embrasse. Vraiment, le name dropping de malade. Voilà, il me montre comment il faut faire. En fait, commercial graphique pour les pages jaunes, c'était créer des annonces pour mettre sur le digital. Et après, le vendre, par exemple, à des plombiers, à des choses comme ça. Donc, faire des trucs, finalement, assez basiques. Une photo, un machin, hop, et puis tu leur envoyais, tu t'argumentais là-dessus, quoi. Et en fait, il me fait tout le truc, et je vois que le programme, c'est la NASA. Je dis, oh là là là, j'ai l'impression qu'il est en train de démarrer une fusée pour aller sur la Lune, le gars. Et elle est à côté de nous, et tout ça, il m'explique, et puis il me dit des trucs comme si vraiment je savais. Il me dit, de toute façon, là, après, tu switches sur le... Je dis, oui, complètement. Elle me dit, tu notes pas ? Je dis, si, mais après... Et elle me dit, justement, on va switcher. Tu vas prendre les commandes. Et là, en fait, tu sais, moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours dit oui, je peux le faire. Et après, quand je suis sur le truc, je me suis toujours à peu près débrouillé. Et là, en fait, c'est comme
sans venir le contre-exemple.
tellement, Juliette. Là, c'est comme le violon. Tu dis oui, tu sais jouer du violon ? Bien sûr. Prends le violon. Tu ne sais pas jouer du violon. Il n'y a pas de... Et je vais pour cliquer, je fais ça, je dis ah oui, alors là il faut que j'aille dans la borne, dans le truc, et j'ai cherché du regard quelqu'un qui allait vraiment valider ce que je disais un petit peu, parce que je venais exactement de répéter vraiment le vocabulaire que je venais d'entendre il y a une seconde, quoi. Et elle me dit tu sais quoi, il est 10h, tu sais, on va faire une petite pause. On va être tranquille, puis comme ça tu seras bien plus à l'aise, on va te donner des tâches à faire et tout. Et je dis ok, elle va dans son bureau,
elle pleure.
Et du coup elle pleure. Mais pourquoi elle avait un punching ball à l'époque? Il me dit quoi de moi, il demeurait ce mec? C'est Cotorel derrière le bol. Et du coup je suis pas descendu, j'ai été dans son bureau et je lui ai dit, franchement, je vais être franc avec vous, je n'y connais rien du tout. J'y connais rien du tout. Je dis, mais franchement, je suis venu à Paris pour ça, je lui explique. Et je lui dis, donnez-moi une semaine, vraiment, je suis plein de bonne volonté, je veux rester à Paris, je veux avoir de l'argent pour rester, tout ça, tout ça. et elle a été touchée par mon histoire. Elle m'a laissé une semaine, et une semaine après, ben je suis resté pendant j'ai travaillé là-bas pendant près de 2 ans, deux ans je crois. Et c'était, je faisais mes spectacles en parallèle et tout ça. Et c'est vraiment aussi grâce à elle. C'est vraiment, c'est à chaque fois, c'est là j'ai cette mauvaise phrase, mais c'est d'abord des rencontres. Mais tu vois, c'est vraiment ce truc à chaque fois qui m'a fait soit partir, soit rester. Enfin, c'était assez fou. Et vraiment, elle a été vraiment super sympa. Et puis là, pour le coup, j'ai été ultra assidu, ultra. Mais ouais,
en général, quand on fait confiance aux gens, ça leur provoque l'envie de bien,
ouais,
bien faire.
Complètement. Ah ouais, ça m'a
à
vraiment...
propos de coaching.
Mais j'ai pas l'arrêt.
Entraîner les gens, les coacher. Il y a deux options, ou tu les traites plus bactères.
On a eu ce débat cette semaine.
Est-ce qu'on a eu ce débat cette semaine sur qu'est-ce que c'est qu'entraîner des gens.
Est-ce que gueuler à la mi-temps, ça va faire mieux jouer les joueurs, ou est-ce que faut pas leur dire parler différemment?
Ça m'a toujours rebuté. Moi, j'ai toujours été très. Enfin, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité déjà, mais là, en plus, ouais. Et ce truc de faire confiance, je trouve que. Oh là là.
Ça libère.
Ah ouais, t'as raison. On a vraiment envie, quoi, de faire
parce
ça.
On a vu quelqu'un faire une chose gracieuse.
Ouais, exactement. On est reconnaissant.
Il faut vraiment que je sois à la hauteur, ouais. que la grâce perdure. Je vais éviter de faire caca sur son ordinateur.
Oui, alors je l'ai fait 2 fois et je m'excuse. Vraiment. Et il y a des lingettes, de toute façon. Vraiment.
Vas-y, François.
Non, mais juste pour. Parce qu'après, on va peut-être passer sur un autre truc. Mais ouais. Juste par rapport à la question de Juliette du début, qu'est-ce qui t'autorise? Alors, il y a ta famille, tout ça, c'est naturel.
Là, c'est clairement son père.
Ouais, mais après, on fait un bond dans... Tu joues déjà à Lyon, et puis après, tu décides de partir à Paris. Mais entre ces deux moments-là, il y a un moment, tu te dis, je vais monter sur scène, je vais essayer faire mon métier. Ouais. Tu vois, ce moment de bascule, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce qui t'autorise? Est-ce que c'est toujours tes parents ou pas
Non, c'était ma meilleure amie, Chloé, qui elle, bossait à la mairie.
En fait des femmes. Hein.
T'as vu ça? Ah ouais. Mais moi, je suis. Oh là là.
À part ton père, il n'y a que des gonzes.
Mais ouais. Non, mais mon père est une femme. Exactement. Il est merveilleux avec son carré plongeant.
Ce sera le titre du podcast.
Mon père est une femme.
Il vient de dire carré plongeant.
Oui, je m'appelle
Patrick. J'ai l'impression d'être de retour en arrière. C'est à peu près au mi-temps des années 2000. C'est ça. Au moment où il y avait Tony Ngaï, on avait tous des carrés plongeants. Ignoble.
C'était la mode.
Pourquoi ton père, mère, t'a appelé Patrick d'ailleurs?
Ah, alors, c'est une histoire assez jolie en plus, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que j'ai toujours été le seul dans ma scolarité. Et heureusement...
Ah, t'appelais Patrick, tu m'étonnes.
Exactement, en plus.
C'est vieux que ça, Patrick?
Ah oui, c'est plus la génération de mon père, par exemple.
C'est ça. Patrick,
Sébastien, tout ça, tu vois.
Moi, j'en ai eu plein dans ma classe. Patrick.
Oui, mais t'étais dans une classe spécialisée. Toi.
Mais tout le monde avait redoublé combien d'années, par exemple, Ramzi?
Non, des 84, je t'assure.
Ah ouais.
Bon, peut-être que c'est revenu à la mode avec Champagne.
Ah ouais, c'est ça. C'est toi qui as lancé une mode.
Ah, mais c'est pas le moment où. Putain, si, il y a eu dû y avoir toutes les nanas qui étaient dingues de Bruel.
Ah, de Patrick Bruel. C'est pour ça que c'est revenu.
Comme il y a eu une chier de Dylan rapport à toutes les meufs qui étaient amoureuses du mec dans Beverly Hills.
Exactement.
C'est pour ça que pour moi, c'est pas ringard, Patrick.
Ouais, Patrick, effectivement,
alors,
à chaque fois, on s'imagine...
Le tien, Patrick, c'est quoi?
Mais c'est vrai qu'on s'imagine Patrick toujours un mec avec une grosse gourmette et une cravate titi. C'est ça. Et en fait, ma maman, quand elle était toute petite, elle avait un strabisme à l'école. Enfin, même dans la vie de tous les jours, j'imagine. C'était pas une coquetterie comme ça pour aller à l'école.
Tu sais que coquetterie, c'est le joli mot pour dire...
Pour dire ce petit strabisme, effectivement.
Comme quoi, pour certaines personnes, c'est séduisant. Hein,
oui, complètement.
Parenthèse fermée. Bisous, Guillaume.
Ok.
Pardon.
Il est très léger.
Léger
chez Guillaume.
J'ai encore de la bière dans les veines.
Non, tu as encore de la bière sur tes vêtements. C'est assez rare.
J'ai loupé la table.
Bon, j'ai l'impression que personne ne tient cette émission.
Alors, si, Patrick.
Il était en train de dire un truc.
Exactement. Non. Ma maman avait une petite coquetterie dans l'œil, effectivement. Elle avait un strabisme. Et à l'école, tout le monde se moquait d'elle, à part un garçon qui s'appelait
Patrick.
Fabrice. Patrick. Et toute sa vie, elle a vu ce petit garçon un peu protecteur et tout machin. Et elle s'est dit, si j'ai un garçon, je l'appellerai Patrick. Donc du coup, tous ses poupons s'appelaient Patrick et tout. Donc elle a vécu, elle vivait déjà avec l'idée d'avoir son fils, c'est Patrick, quoi. Et quand il y a eu quand mes parents ont eu la chance de m'avoir, ça s'est même pas, ils ont même pas posé, ils sont même pas posé de questions.
Non, quoi, c'était Patrick.
C'est un garçon, c'est Patrick. Alors, ouais, comme si j'avais toujours été là, quoi.
C'est vraiment un récit mythologique.
Tu vois. Ouais.
Non, mais oui. Moi, je trouve ça super beau. Je trouve ça super beau. Voilà.
Et donc, on peut revenir à la question d'il y a 10 minutes de François.
Non, mais oui, parce qu'elle était nulle, alors on l'a oubliée.
Ah oui. Non, elle était très bien.
Les fraises. Non, c'est ça ma réponse.
Non, entre les deux moments où c'est une normalité chez tes parents, vous faites des spectacles même pour dîner, et quand tu pars à Paris, tu décides. Et le moment où toi, entre les deux, où tu décides de faire un spectacle, d'en faire ton métier, en tout cas ouais. D'essayer d'en faire un métier.
En tout cas, ouais, oula. Je vais démarrer au bout d'un moment.
Ouais, pas de blague sur les mobilettes. Vas-y, enchaîne.
Très bien.
C'était quoi ta première mobilette?
C'est une 100. Ah, c'était une 100. C'est en 102, moi.
Ah, j'avais prévenu Juliette que cette émission allait être totalement décousue.
Moi, j'avais pas prévu que je serais encore alcoolique.
Oui, ça.
Moi, j'avais prévu.
Moi, je serais malade et en plein ramadan, ouais, ça fait.
Moi, j'avais pas droit et je voulais un 103 SP.
Ah, c'était génial, ça. Ah oui, on te voit partir. François.
J'ai encore mal à la tête, en fait, François. Arrête ça, deux okay, chips.
Donc,
allez, chips.
Métier.
Effectivement.
Spectacle.
Oui, Patrick. Ce qui se passe, c'est que j'ai ma meilleure amie, Chloé, qui est à la mairie, et elle entend que la mairie veut sonder un petit peu les gens pour savoir si, pour les besoins, s'il y a besoin d'un café-théâtre, ou en tout cas, vraiment un engouement, une envie des Mâconnais pour avoir un café-théâtre. Et ils organisent un truc à la bibliothèque de Mâcon. Voilà, et elle dit, moi j'ai mon copain qui est drôle et elle dit il peut écrire un sketch, un truc avec deux paravents et puis un truc à la bibliothèque, quoi. Et on était deux, il y avait moi et un mec qui s'appelait Zachary, je crois, et j'écris un truc que je ne fais pas parce que je parle avec il y avait un couple au premier rang et puis je parle avec eux et puis je rigole avec eux et en même temps ça fait rire tout le monde. Et je raconte ma vie. Je raconte comment je suis arrivé à venir grâce à Chloé et tout. Et puis, je mets des morceaux de trucs que j'avais écrits. Enfin, c'était vraiment comme cette émission. Ouais. Ça partait dans tous les sens. Quoi.
Impro total.
Ouais.
Mais avec de la blague et que ça fait rigoler, quoi.
Ouais, complètement. Et je me suis senti, comme à la maison, quoi. Donc, c'était très, très simple. Ça m'a toujours... et je le fais encore dans mes spectacles maintenant parce que ce truc des gens, ça paraît bête à dire, mais je commence toujours dans le public, moi, par exemple, pour discuter avec les gens, pour faire des trucs. J'adore...
Le contact.
Ouais, vraiment, ce
rien
truc-là.
Rien d'écrit, tu prépares pas des choses? Non, tu dis, je vais...
Pour aller dans le public? Ouais. Non, jamais. Jamais, ouais.
Ce qui vient, quoi.
Ouais.
Et s'il n'y a rien...
Comme on disait avec Emmerich l'autre jour, c'est... Ah ouais, c'était bien ça. J'avais préparé ça en impro. Et en fait, ouais, ce truc-là, je joue, c'est un dimanche après-midi, et il y avait par hasard les gens du complexe du rire. Je sais pas, tu vois ce café-théâtre à Lyon, et qui disent, on organise une audition pour faire le festival de Villeurbanne. Qui est vraiment qui touche Lyon, exactement. Le Tonkin s'y représente. et ils me disent, ça tire dans tous les sens, ton truc, mais si tu veux, faire l'audition, c'est en public, c'était vraiment une soirée par entière, quoi. Ils disent, t'as un sketch de près, c'est mardi. J'ai dit, ah oui, complètement. J'ai fait exactement comme j'ai fait toute ma vie, d'ailleurs. Je dirais pour l'opéra de Ravel.
Oui, j'en ai fait des opéras, bien sûr.
C'est ça, bien évidemment.
Ça fait le troisième, là, avec celui-là, ça fera quatre.
On parle bien de la pâtisserie, là, on est d'accord. Hein. Et du coup, je suis allé là-bas le mardi, tout avec un sketch, mais vraiment avec trois bouts de ficelle et deux vannes. Et ça s'est bien passé. Et y avait d'ailleurs le Florence Foresti qui était là, qui était avec son chéri de l'époque, avec qui on s'est super bien entendu. Et puis on était tous les trois en train d'attendre. Et puis moi, je savais même pas qui c'était, quoi. Et j'ai passé le truc. On était de 10, ils en ont pris 4 et j'étais dedans. Et du coup, ma troisième réelle scène, En tout cas, ma deuxième plus réelle scène, c'était au Festival de Villeurbanne, devant 300 personnes, avec un micro, avec un micro-casque que j'avais jamais mis de ma vie. Et j'arrêtais pas de... les gens, ils disaient « Oh là là, il a plein de mimiques oh, !» Non, non, il a des tics. Vraiment, j'ai... Tu sais, le micro-casque qui posait ouais, comme ça. Et ouais. qui est... Pour moi, c'était vraiment un truc... Et voilà, j'ai pu le faire ça. Et après, à Villeurbanne, y avait des gens d'autres cafés-théâtres. Ça s'est bien passé. Et puis, j'ai pu jouer dans les cafés-théâtres lyonnais, comme ça. Et, okay. et c'est ce qui a fait la transition, finalement. Entre,
et là, tu te dis, je vais en faire mon métier, à ce moment-là.
Bah, je me dis, en tout cas, je vis ma passion.
Ouais.
Là, c'est sûr. Mais une fois de plus, je ne me dis pas... ouais, ça va être mon métier tout de suite. Ou...
Oui, tu bosses ça à côté. Tellement... Oui, parce, ouais, puisque ouais, tu es vendeur chez Thirier, du
ouais,
coup.
Ouais. J'étais... J'étais à Citroën à l'époque. J'étais à Citroën. Ouais.
Et ouais, à quel moment, donc là, on est revenu un peu en arrière, mais oui. là, on va repartir un peu en
Flash
avant.
Flash forward.
À quel moment t'en vis ? Tu dis que t'as fait deux ans pour les pages jaunes.
Ouais, complètement. Et... Grâce à la... en grande partie à Bruno Gassio, parce que je jouais et tout. Et ils ont voulu reformer une troupe pour la grosse émission sur Comédie. Pour une nouvelle mouture de la grosse émission et tout. Et c'était Yacine Bellatar, je crois qu'il lui avait parlé de moi, qu'on embrasse, il doit sans doute être en Syrie.
Ou à l'Élysée. On n'est pas géographiquement, c'est assez
tout
incertain.
Ça, je vais couper.
C'est varié. C'est... Non, tu coupes pas. Si tu coupes, je me. Je me tue avec mon pouce.
Oh, mais oui.
Mais elle est complètement.
Mais oui, mais oui.
Mais,
oui.
Bah mais oui. Je suis sûr qu'on peut. Ça doit être très long, mais je suis sûr qu'on
peut y arriver.
C'est tu te laisses pousser l'ongle, oui.
Je te jure, mais moi je suis putain d'obstiné, quoi.
Mais ça, je sais. Oui.
Tu le sais.
Mais ouais, et Gassio s'était renseigné. Il y avait des gens, on avait des amis en commun, des comédiens, des comédiennes et tout ça. Et je me souviens que moi je suis arrivé à Canal où j'étais, mais je tremblé comme tout, et Gassio m'ouvre la porte du bureau, et il me dit « Ah, voilà Patrick Chanfray, apparemment l'homme le plus drôle du monde. »
Oh putain.
Donc, du coup, je
Donc, là, tu dis « Oui, vraiment, donnez-moi 10 minutes et je vais le faire. »
Et je lui dis un truc, mais très, très spontané, je lui dis oh, « Peut-être pas du monde, mais je suis pas assez... vraiment... Je ne suis pas aussi vantard que ça, mais je pense d'Europe. Je pense d'Europe. Et du coup, ça l'a fait marrer.
Ah bah oui.
Et on a vraiment parlé de tout, comme avec la RH des pages jaunes. Et c'était vraiment très fluide et j'ai pu intégrer la grosse émission. Et là, oui,
et c'est là, à ce moment-là, t'avais sans doute un contrat de saison ou de demi-saison,
ça. Complètement. Et puis une petite veste de demi-saison aussi. J'ai une petite... En tweet.
Non, mais c'est important, c'est le moment où il y a fiche de paye.
Ouais,
c'est ça,
exactement.
Et ça, quand même,
oh là là,
on est
mais
d'accord,
c'est dingue.
Ça
et puis
fait
en plus,
sacré effet.
Enfin, tu passes, enfin, là, je passe de cachet un peu à droite, à gauche, comme ça, à émission de télé, en quotidienne, en direct. Donc oui, le même au niveau des sous, c'est tout ou rien, quoi. Il y a vraiment eu...
Et au niveau du travail, est-ce que...
Parce
que
ah oui, quelle histoire, ce truc.
Ah oui, après, non, je suis là,
je fais ça à personne.
C'est quoi, une blague ?
Non, non, je vais vous la faire. T'avais l'habitude de travailler seul, donc d'écrire pour toi, de...
Ouais,
et là,
exactement.
Tu intégrais une troupe.
Ouais,
enfin, du coup,
mais j'ai toujours été un truc... Enfin, ça, une fois de plus, ce truc, ce rapport aux gens et tout ça. J'ai toujours été quelqu'un de troupe. J'ai toujours eu beaucoup de groupes de copains. J'ai toujours et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à prendre même le one man au sérieux, parce que j'ai été content d'avoir mon univers à moi, de dire mes mots à moi et tout ça, mais il fallait tout le temps que je fasse, tu vois, quand j'avais mon autre spectacle, mon autre one man, eh ben j'ai fait une pièce à côté avec un pote. Parce que j'avais besoin de faire un truc, j'ai toujours eu besoin de faire plein de choses en même temps.
Et surtout avec des gens. Les hommes se cachent
pour mentir. Les hommes, ouais, produit par Artus.
Avec
avec Vincent Piguet.
Vincent Piguet, donc
de
Juliette
est fan.
La
Cheche Synchro.
La Cheche.
Ah, je suis pas fan de lui, je suis fan
de la Cheche.
De Standard.
C'est beau. Et il faut expliquer la chenille, les vidéos avec la chenille.
Oui, c'est qu'il a créé la Chenille School Academy.
Exactement, la première école de chenille
synchronisée. La première école de chenille synchronisée. Je vous conseille de voir les vidéos, c'est assez rigolo.
C'est merveilleux.
Très, très rigolo.
Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des chaînes de télé qui ont pris ça vraiment au sérieux qu'on
En fait, il le fait un peu sérieusement aussi.
Mais
ouais.
Ah oui, mais parce que ça a toujours été, il a toujours été comme ça en plus. Voilà. Vraiment, ils ont s'est vite rejoint là-dessus.
C'est un peu sérieux, mais en même temps, c'est...
Qu'est-ce elle me fait coucou. Mais elle a le droit.
Ah, mais écoute, oui, moi non plus, j'avais pas vu qu'il y avait une autre personne là-bas. On pourrait juste allumer des lumières.
Bon, alors, je ressens ce débat.
Non, et donc, pardon, non, non, mais je reviens juste sur...
le travail.
Le j'ai travail, une question oui, aussi. Ouais. Il n'empêche que là, du coup, vous écriviez collectivement des choses.
Ouais, bah nous, on était des avec, on avait un truc.
Mais laisse-le poser sa question.
Pardon.
Non, non, c'est ça, ma question, vas-y.
Mais en fait, nous, on n'écrivait pas vraiment tous en troupe. On avait un truc, c'était le JT. Ah, et on écrivait le
c'est voilà, un peu comme dans notre émission le journal ouais, voilà, de presque 17h17 ouais.
Ou... et qu'on a repris d'ailleurs après avec Bruno Gassio sur Blast on a repris ça Cole pour la seconde élection enfin en tout cas la campagne donc, présidentielle
ça nécessitait quand même une écriture donc quotidienne
ouais. Ah ouais, mais ça nous a donné une rigueur, un truc ouais, que, c'est là que j'avais pas du tout.
T'apprends ouais. à écrire tous les jours. Enfin, oui. faut fournir quoi, de la matière
ouais,
tous les
ça.
Jours.
Mais ça m'a toujours moi c'est ce qui m'a toujours excité, c'est vraiment ce truc. C'est pour ça que j'aime autant la scène, j'aime autant la radio et tout ça. Parce que la radio, c'est vraiment mon média préféré. Parce que voilà, on peut dire un peu ce qu'on veut. Et voilà, puis il y a cet aspect feutré où on est loin et en même temps si proche des gens, quoi. Et ce truc-là, cette rigueur de d'écrire des choses, ouais, ça m'a apporté vraiment une rigueur, quoi, d'écriture.
Mais pas de pitcher les choses.
Ouais.
Parce que je vais raconter un petit peu. On se connaît avec Patrick, on a bossé ensemble à Canal.
Exactement.
Et c'est le plus mauvais pitcher de sketch.
Exactement. C'est vrai.
Du monde.
T'as raison.
On a vécu des moments où il essayait d'expliquer des sketchs en conférence de rédaction.
C'est vrai. Alors, heureusement que tu étais
là. Vous voyez, comme, c'est, comme le podcast est complètement décousu, et ben c'est comme ça, mais même sur un sketch de qui doit durer 3 minutes.
Exactement. Et merci. Et Ramzy était vraiment le meilleur des alliés dans cette émission. Du petit,
mais Ramzy, c'est un super alors, vendeur. J'avais déjà travaillé.
On peut raconter aussi. Peut-être que je le couperai, mais là, je le raconte.
Avec
oui. Je ne voulais pas citer son nom, mais...
Ouais, alors ensuite, ouais. Mais ouais, il y a eu un sketch, effectivement.
On a vécu le sketch des guignols...
Culé à mouton.
Oui, en culé à mouton. Ouais. Oui, mais expliquez-moi pourquoi c'est drôle. Parce que,
parce que c'est drôle.
Il avait fait un sketch, je ne me rappelle même plus du sketch.
Ouais,
je pense que c'était le truc dans la supérette.
Ah oui, ouais.
Il faisait un sketch où il jouait des séquences, machin. On monte le sketch. Ensuite, on le montre au rédacteur en chef.
Ouais.
Parce que, ouais, il avait repris sa place.
Complètement.
Et le rédacteur en chef nous pose vraiment la question.
Vraiment, ouais.
Qu'est-ce qui est drôle là-dedans?
Dis, mais pourquoi c'est drôle là?
Et après, pourquoi c'est drôle? Du coup, on lui explique ce qui est drôle, ouais.
Et d'expliquer, tu vois, on le sait tous, d'expliquer une blague. C'est quand même le truc le plus.
Et pourquoi c'est marrant?
Bah parce que tu sais, le
décalage.
C'est parce que c'est une situation
vraiment absurde.
Ça a duré, je sais pas, dans ma tête, ça a duré 3 heures. Bon, ça a dû durer 5 minutes.
Oui, c'est ça.
Mais.
Mais c'était incroyable. Là, vraiment, ce truc.
Je crois que c'était la goutte d'eau, c'était le truc de trop.
Ouais, ouais.
Je me suis dit, bon, c'est pas. Ça va être impossible d'expliquer. Surtout, alors déjà, expliquer une blague, c'est compliqué. Expliquer l'humour de Patrick. J'allais dire de Chanfray, mais c'est pas très respectueux.
Expliquer l'humour. Une fois que tu dis pas de l'autre.
De l'autre con.
Merci. Quelqu'un des avocats.
C'est encore plus compliqué, parce qu'en plus, c'est de l'absurde. Donc, expliquer de l'absurde. Waouh.
Ah oui.
Et donc, oui. Donc voilà, on a vécu ce truc ensemble. J'espère plus jamais le revivre.
J'espère aussi.
On est quand même à une époque où on demande à des humoristes d'expliquer leurs blagues.
Oui, c'est ça.
Et
oui,
de mais prouver qu'elles ne
sont pas...
C'est
à la police, c'est pas pareil.
Oui, cochez votre case. Bah, c'est pas seulement à la police. Hein. C'est à la police qu'il a dû... qu'on l'a sommé d'expliquer sa blague. Et de prouver qu'elle était... causer la case qui correspond pas antisémite, pas homophobe, pas sexiste. Pardon, hein. Il n'y a pas que la police. Il y a des gens qui sont censés s'occuper de nous.
Ouais.
Allez, on la ferme, cette parenthèse.
Ça va être beau. Il y a beaucoup de choses à couper là aussi. Hein. Bref. Alors.
Attention, j'ai envie de dire bouillaka. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Non,
ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ouais, c'est clair.
Non, mais te fais pas chier à monter. Hein.
Non, mais oui.
Ouais. Mais est-ce que. Drôle. Alors, moi, il y a une question quand même sur le.
Mais qu'est-ce que tu. Mais garde ton t-shirt. Mais elle est fou, la fille.
C'est à propos du t-shirt que je pensais à ça. En fait, entre ce que tu nous racontes.
François.
La mécanique. Grave, ouais, mais c'est trop tard. Je suis partie, rien ne m'arrêtera. Attention.
Ah oui, vite. Elle va se pousser le cou. Vite, elle se pousse.
Ouais, je te laisse. Vas-y. Hein.
Entre ce que tu nous as raconté sur ton papa mécano, oui. Toi qui en as fait un peu,
oui.
Ta casquette.
Complètement. Que j'ai eue hier.
En fait, t'es ce qui se rapproche le plus d'un redneck français.
Ouais. Ah ouais.
Ouais, sachant que moi j'ai une passion absolue et très premier degré pour tout ce qui relève des rednecks. Par exemple, comment il s'appelait l'autre abruti qui faisait des trucs très très drôles en skate dans les années 2000.
Avec Steve O et tout ça.
Non,
oui. Steve O.
Oui, mais
Jackass.
Oui, voilà, Jackass. Pour moi, c'est ça, c'est la quintessence de l'esprit redneck. Et ben, en fait, je pense que tu pourrais être le représentant français. Et qui n'existe pas, puisqu'évidemment, on est dans un pays extrêmement élitiste. Et donc, on n'a pas de représentation de gens qui ne sont pas policés par Paris.
Mais il n'y a pas Michael Youn, il n'y a pas fait Jackass.
Oui, dans les faits, dans les sketchs, bien sûr, il l'a fait à fond. Sauf que lui, il est boulonnais, Michael. Il dégage. Tu ne peux pas fabriquer ça. Moi, c'est aussi ce que j'aime chez Douli et Émeric Lamprey. C'est que à aucun endroit, tu peux penser qu'Émeric ou Douli, ils sont parisiens.
Ah oui,
ils ont un truc. Alors qu'elle est un
Douli. Une odeur, ils ont une odeur déjà.
Non, mais ils ont une chose délibérément pratiquement anti-parisienne.
François, vas-y, tu avais une question.
Oui, mais toujours sur l'écriture, là, quand tu passes à écrire tous les jours, est-ce que ça devient une difficulté? Parce que s'amuser, monter son spectacle, prendre le temps, même si des fois tu as des impératifs, tu as une deadline, mais là, c'est tous les jours, il faut fournir de la matière. C'est presque un peu à l'usine, si j'exagère.
Oui,
est-ce que là, tu rencontres une difficulté ou pas? Ou ça se fait vraiment naturellement? Tu dis, j'ai de la blague.
J'avais l'impression. Alors, on était trois à écrire. Il y avait Aude, Gony Goubert, Nicolas Roux, qui est un super auteur aussi que j'adore. Et puis Bruno, qui était vraiment qui nous chapeautait, parce qu'il aimait ce truc déjà de JT. C'était vraiment. On était vraiment ses guignols, quoi. C'est ce qu'on n'arrêtait pas de dire. D'ailleurs, la première, je crois que ça a été comme ça, où Bruno, il sortait. Il sortait de sous le bureau, et c'est lui qui nous. Comme s'il nous avait manipulé, que c'était les guignols et tout machin. Et cette blague très fine, quand il est parti, je dis ouais, il aurait au moins pu se couper les ongles. parce que c'est ça aussi, c'est chic. C'est ça le chic redneck. et effectivement, le truc d'écrire tous les jours, bah, ça m'a donné cette rigueur que je n'avais pas. Et ça m'a motivé, tu vois, on le sait tous, vous êtes tous des auteurs, de cette mécanique d'écriture, c'est-à-dire plus on écrit. Je lisais un truc l'autre jour de Stéphane King qui disait ça. Il disait de toute façon, il faut faire les choses pour faire les choses. Et aussi, comme si on attend l'inspiration, c'est-à-dire que ça, on le fait. J'ai longtemps cru que c'était comme ça, de dire oh non, là, aujourd'hui, je ne suis pas inspiré.
Ouais.
Ben non, en fait, il faut se mettre devant. Et ça m'a conforté dans cette idée, ou en tout cas, d'aller vers ça, d'écrire tous les jours. Et je le fais encore. Et puis surtout, de ramasser. Alors, ça ne correspond pas du tout à cette phrase, d'ailleurs.
Ouais.
Mais en tout cas, d'être plus concis, chose que j'essaye de plus en plus. On en parle souvent, d'ailleurs, avec Cartus. Là, j'ai fait ses premières parties et tout machin. C'est vraiment un très bon ami. Et puis, on en a parlé très souvent aussi avec Constance. D'être plus concis, d'être plus précis, d'être sur ces choses-là. Chose que maintenant... Tu vois, c'est même plus une difficulté. C'est un truc que j'essaye de faire. Là, je suis parti 4 jours, là, le m'isoler. J'avais jamais fait ça et je trouvais que c'était tellement génial pour mon nouveau spectacle. Je suis parti m'isoler et j'ai adoré. C'est-à-dire que j'étais...
Quand tu dis t'isoler, c'est vraiment seul.
Je voulais poser les bases d'un nouveau spectacle, parce que le spectacle que j'avais là, j'ai réécrit tellement de choses en faisant des scènes ouvertes, en faisant plein de trucs, que ça n'avait plus rien du tout à voir avec.
Tu peux expliquer ça? En fait, t'es parti d'une base d'un spectacle.
Ouais. Ça s'appelait D'accordiste. C'était sur le fait de quelqu'un qui, un espèce de yes man qui dit oui à tout, et ça l'emmène à chaque fois dans des trucs. Chose qui très proche de moi. Il y a ce oui de cette mise en danger, mais il y a ce oui aussi, tu sais, justement de pas vouloir déranger, que j'ai eu, que j'ai bien évidemment encore, tout le temps, tu sais, de vraiment la peur de.
D'où la raison de ta présence.
Ouais, avec oui, oui. Il ne voulait pas venir.
Ouais.
Bon, bah.
C'est bien que ça nous profite.
Exactement. Mais ouais, ce truc du oui, il y avait quand même cette grosse trame, ce gros squelette-là, et puis cette mécanique. C'était une question qui m'était posée, je disais oui, et ça donnait lieu à un sketch, en gros. La mécanique était celle-ci. Sauf que là, j'ai réécrit tellement de trucs qu'il n'y avait plus du tout d'histoire de oui. Il y avait plus.
C'est qu'au fur et à mesure, c'était... en fait, ouais, ton spectacle évoluait.
Ouais.
Tu modifiais des choses.
Complètement.
Et en fait, tu as perdu tout le fil du spectacle.
Ouais, ouais.
Donc à la fin, il ressemblait, c'était un gloubi-boulga.
Ouais, vraiment. Et là, au bout d'un moment, j'ai dit, oh là là, là 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 là. Et je bosse, avec Nadine Descoussi. Je ne sais pas si... elle bosse avec Aymeric aussi. Avec Pierre M aussi, Pierre-Emmanuel Barré. Et voilà, c'est elle qui cadre, en tout cas dans les textes, enfin, là, de tout ce que j'ai écrit et tout ça, et de me rattacher, Ramzy, c'est bien ça de moi, de me rattacher à quelque chose de concret. C'est-à-dire que je pars de quelque chose qui parle à tout le monde. En l'occurrence, j'ai écrit un truc sur la smart box. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, ce coffret cadeau qui vraiment qu'on subit vraiment.
Qu'on n'utilise pas.
Exactement. Pas. Bah ouais, tu vois, j'ai testé un truc hier, vraiment en disant que vraiment on a justement le spectacle va porter sur les pressions qu'on a et les pressions inutiles qu'on peut.
Ouais,
et en l'occurrence,
merde,
vraiment cette pression
inutile.
Exactement. C'est la question que tout le monde se pose. T'entends la date du jour à la radio et tous les smartboxiens se posent cette question en disant putain mais attends mais elle est valable jusqu'à quand ma smartbox et du coup ça fait une pression qu'il faut s'organiser, il faut aller c'est un merdier sans
dans
nom
dans les pressions inutiles, ça c'est vraiment une pression inutile.
Bah déjà faut choisir ce que tu fais en
exactement
plus.
Ouais, c'est ça,
exactement et tu vois alors après de partir dans l'absurde mais en tout cas de partir de quelque chose de très concret, de voilà on pose le cadre, les gens sont plus à même en tout cas je suis plus à même de les prendre par la main, en tout cas
c'est un truc qu'ils connaissent.
Ouais, voilà, c'est ça. Avant c'était vraiment très pardon.
Et là
c'était très quoi?
Avant c'était très très foutraque, enfin il y avait un truc donc
trop absurde.
Absurde. Bah en tout cas c'est pas que je perdais des gens, c'est que c'était
c'est clivant. Qu'ils venaient pas.
c'est que je les avais même pas. Ouais. Non, c'était très clivant.
Ouais.
C'est-à-dire que
soit
les gens qui rentraient dans le délire.
Oui, voilà.
Vraiment le génie absolu.
Ouais.
Et puis les autres de
oui, mais c'est vrai que
le sketch tous
non,
les
mais
jours,
c'est vrai que le public, moi j'adore l'absurde, mais il y a des gens qui sont complètement hermétiques et vrai que là c'est
complètement.
Bon, je suis pas venu avec ton spectacle non plus, mais c'est pas.
Mais...
juste pour bien comprendre, quand tu t'es enfermé pour poser les bases, c'est-à-dire poser les bases de la chose concrète tout seul.
Ouais.
Là, dans ta une résidence.
Ouais, je suis parti 4 jours et je me suis mis.
Rebondir
là-dessus, vas-y.
Ouais. C'est ça que j'avais dans la tête. Quand tu dis je suis parti 4 jours en résidence, je me suis isolée.
Ouais.
Techniquement, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne l'ai jamais fait j'arrive pas à créer. Ça fait déjà 2 ans. Donc, je me dis, explique-moi à quoi
Mais toi, tu vas en résidence chez ta mère.
Ouais, mais justement, quand je suis chez ma mère, moi, je bosse, je m'occupe du jardin,
je suis allé m'isoler justement pour pas avoir toutes ces choses-là.
Voilà,
au départ, je voulais, tu vois, pareil, je me suis dit, je vais aller chez mes parents.
Mais
et
c'est
tout
pas
ça.
Pareil, ça.
C'est pas loin du, ça a rien à voir. Je voulais un truc. Alors, ça va faire très cliché, mais je suis allé à Deauville et je voulais un truc.
Je voulais de l'horizon.
Lumineux, exactement. Lumineux avec la mer. Donc du coup, j'ai eu la chance de trouver un appart génial où il y avait, j'ai même fait des stories pour dire qu'il y avait vraiment personne, parce qu'il y avait vraiment, vraiment personne. Mais au moins, je me suis mis un réveil. Donc du coup, je me levais à 8 heures et je petit déjeunais devant un épisode des Simpsons ou des Griffins. Parce que bon, j'ai bientôt...
Redneck un jour, redneck toujours.
Tout à fait. En trempant des boudoirs dans mon Nesquik. Voilà, tout est vrai en plus.
C'est comme ça que démarre le spectacle. Hein,
oui, complètement. Et en fait, vraiment de la construction, c'est je me suis mis avec avec un stylo plume et parce que j'aime bien la sensation que
de l'encre.
Voilà,
d'écrire, ouais.
Gratte le papier quoi. Et j'ai écrit des choses et je voulais vraiment me poser loin de tous ces trucs de tu vois, typiquement, tu vois chez mes parents, j'aurais reçu le T'es à Mâcon, bah viens, on boit un coup, on fait un truc.
Ouais, ne serait-ce que même parler à tes parents, tu te lèves le matin, tu parles à tes parents, donc tu penses pas du tout au truc, quoi. Tout à
fait. Et donc, où est-ce que tu mangeais?
Je suis arrivé, j'ai fait des grosses courses et je suis pas sorti pendant 3 jours. Okay. Pendant 3 jours, je suis resté, j'étais bien, j'étais en chaussettes. C'était merveilleux. Et je me suis
même pas de balade, rien.
Non, un peu le soir. J'étais
au casino.
Exactement. J'ai pris une tonasse. Pour ça, je m'en branle du spectacle finalement.
Et t'as réussi à écrire combien d'heures?
Par jour, et ben en fait, ça allait très vite parce que je partais d'un sujet, je le développais, et puis le fait que Nadine m'a donné des espaces d'axes et puis de cases à remplir, ça me paraissait finalement assez simple, ou en tout cas très fluide, et j'avais vraiment envie de le faire. Il y a eu une fois où j'ai écrit pendant 5 heures d'affilée, où c'était alors il y en aura bien évidemment, j'ai écrit 17, je suis revenu là avec 17 pages de spectacle.
Ça représente quoi en temps,
en gros? Je crois que c'est 5 minutes par page.
5 minutes par page,
en gros. Je crois que c'est ça.
Ça dépend avec combien jeu, avec quoi. En 12 caractères Arial 12
24. C'est écrit en très gros.
Donc ça fait, oui, là, t'as un spectacle alors.
Oui. Alors bien évidemment, il y aura tellement de choses à épurer, c'est sûr. Mais de se mettre ce truc, pareil, je ne l'avais jamais fait, ça m'avait toujours... Et à un moment, je me suis...
Ça, tu vois, en parlant d'autorisation,
oui.
Moi, j'ai 51 ans.
C'est vrai, tu t'es jamais autorisé.
Je ne me suis jamais autorisé cette position d'artiste.
Ouais.
J'ai toujours...
De résidence,
J'ai même pas de table. Ah, j'ai jamais eu de bureau. Je ne me suis jamais autorisé à avoir un bureau. Mes romans, je les ai écrits... Je ne mens pas, j'exagère pas. Je les ai écrits avec mon ordinateur posé sur mes genoux.
Ouais.
Le cul devant la fenêtre sur la porte-fenêtre de ma chambre.
Ah oui.
Et ma mère, à chaque fois, elle me voit comme ça, pliée. et elle me dit, mais pourquoi tu t'infliges ça? Et je rigole en disant, mais non, mais moi, j'adore être pliée en 8.
Chacun est différent aussi.
Et en fait, oui, mais là,
ouais, mais
en écoutant,
elle fait un blocage.
En écoutant Patrick, je me rends compte qu'en fait, je ne me suis jamais autorisée ce ridicule luxe, finalement, de partir toute seule.
C'est peut-être intéressant de le faire maintenant.
Ben, c'est la première fois où je me dis, mais enfin, t'es quand même bien conne. Enfin non, de ma vie. Non,
mais après, des fois, on peut se dire, voilà, si je pars 4 jours et que je reviens avec rien, que je fous rien,
Mais moi, j'en suis pas là, mon pote. Ah ouais, j'en suis juste à me dire, j'ai pas le droit, je suis pas.
Tu te
une
dis,
artiste,
j'ai l'obligation de résultat aussi.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on s'arrête.
Attends, non.
Non, on verra.
C'est
ça
toi,
dans le bonus,
non.
François.
Non, non, François.
Non.
On verra dans le bonus.
Non.
Tu n'es pas Gaston.
Non. Ici. Gaston. Non,
pas de bagarre, pas de... Restez
non
assis.
Non,
oh là là, on dirait une bagarre de clodo.
Merci Patrick.
Merci
on te retrouve
vous,
alors, parce que on te retrouve. Ton podcast, on n'en a pas parlé, mais t'as un podcast
complètement qui s'appelle
L'Apéri-Kiff. Ouais.
Exactement, où on découvre un invité par ses nuits. Voilà, où je suis accompagné. On tourne ça dans le bar d'un copain, au petit Barcelone, en face des Folies Bergères. Et je suis accompagné par Bruno Labandeson, qui est à la guitare, qui nous accompagne tout le long, qui improvise sur ce qu'on dit. Et de Dr Rico, un mixologue qui crée des cocktails, qui écoute ce qu'on dit pendant toute l'émission et qui crée un cocktail personnalisé à un invité. C'est le dernier verre avec lequel on trinque.
Et tu reçois à chaque fois une personne ou deux personnes des fois
La seule qu'on ait faite, c'était la première, c'était avec Aymeric Lompré. Et puis il y avait Pierre-Emmanuel qui était là, donc c'était cool de les avoir tous les deux.
Ça est dispo sur toutes les plateformes.
Sur toutes les plateformes.
Podcast.
Exactement.
N'hésitez pas à écouter. J'en ai écouté un, mais il est très bien.
Ah bah merci beaucoup.
Avec
Laurie Perret. Exactement.
Très rigolo. On te retrouve également donc bientôt sur scène.
Exactement.
Avec
le nouveau spectacle.
Il démarre quand?
Là, on va voir avec ma prod, avec Nadine, tout ça. Je veux vraiment avoir cette fois-ci quelque chose de concret.
Ouais.
C'est le spectacle de la maturité. J'ai envie de me pousser. Oh, mais on se pousse, Julien.
Ok, et ouais. Sur Rire et Chanson également.
Sur Rire et Chanson, exact. Mais
c'est,
oui.
C'est quoi la régularité?
Bah, en gros, une fois par semaine.
Une fois par semaine.
Ouais.
Les grosses têtes, toujours.
Les grosses têtes. Toujours. J'ai eu la chance de beaucoup travailler, alors là, j'y suis allé moins. Mais j'espère y retourner ouais, au mois d'avril. Parce que c'est vraiment
on se retrouve aussi
j'adore.
Chez Picard.
Oui, exactement.
Voilà. Parce que Thierry est
on se retrouve également dans des fictions, quand même.
Ouais.
T'as quelques tournages.
Ouais, dans le film d'Artus, là, qui sort le 1er mai.
Le film d'Artus.
Un petit truc en plus, ouais. Ah ouais, qui va être un film de. J'ai vu le premier montage qui est génialissime, vraiment. Ouais, avec des adultes en situation de handicap et tout.
Oh,
c'est
putain,
génial.
J'ai vu un extrait.
Ah ouais.
De la bande-annonce, j'étais pris un fou rire.
Ah génial.
Ah oui.
Ah ouais.
Très très drôle.
Ah mais ouais, c'est super. Et puis vraiment, il a un personnage qui s'appelle Sylvain qui est. Il fait le trisomique, mais
un mec qui fait semblant de.
Ouais,
moi, j'ai vu un extrait où il fait semblant d'être handicapé.
D'être trisomique.
Voilà,
quoi,
il y a un vrai handicapé qui arrive et qui lui dit mais t'es pas trisomique. Mais
exactement.
Quoi. Il fait si. Et ça n'a pas de sens.
Ah oui, il fuit un.
Ils font un braquage avec Clovis Cornillac qui joue son.
Non, bon, on continue le podcast là, du coup, maintenant.
Non, c'est
une nouvelle question. Une autre question.
Eh ben merci beaucoup.
Eh ben, merci à vous,
Juliette.
Merci
François.
Merci à tous de nous avoir.
Merci Juliette.
Merci François.
On se retrouve très bientôt.
Merci Rafi.
Merci à la SACD. C'est le dernier podcast qu'on enregistre à la SACD.
Merci la SACD.
Merci à la SACD de nous avoir.
Parce que ça va fermer.
C'est le con.
Merde. J'attendais mes droits.
Il se barre avec le fric.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour le bonus.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.